Mardi 16 octobre, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De la neige est déjà annoncée pour mardi prochain, je te le jure. Robert Blondin à mes côtés, bonjour Robert.
Emmanuel, de la neige.
Il y a un flocon.
C'est pas le temps.
Sur mon application de météo, donc on peut quand même aimer la vie d'ici là, mais on va s'organiser pour continuer d'aimer la vie quand il y aura des flocons. Également, c'est notre mission pendant 60 minutes. À chaque mardi midi, aujourd'hui à l'émission, je vous parle de bonnes nouvelles ou de nouvelles intéressantes qui concernent le trouble du spectre de l'autisme. Également, on recevra à l'émission Linda Gauthier, qui est directrice générale du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. Robert, tu as beaucoup de choses à te réjouir cette semaine. Tu vas nous en faire part avec plaisir.
Pas mal de choses, oui.
Pas mal de choses. Une couple de choses, comme on dit en français. Également, toujours Jean de La Fontaine qui nous rend des hommes meilleurs. François Baruel qui est là.
Qui sera ici avec nous, comme d'habitude.
Mon Dieu! T'es en feu, toi, aujourd'hui.
Il s'en vient.
Il sera assis à notre table.
Il trouve pas stationnement pour son cheval.
Quel enseignant. On est chanceux. On est vraiment privilégiés ici au Canal M. François Bervel sera en studio également pour nous parler santé. Et la chronique des Journées mondiales et internationales de la semaine sera toujours au rendez-vous. Bienvenue à Aime la vie. On vient d'entendre Drive Me Crazy du groupe SSA ou SSA. On ne sait pas, n'en demeure pas moins que ça reste une sortie québécoise du mois de septembre, toujours disponible sur le palmarès à disque.com. Avancée et bonne nouvelle concernant les agents, les gens atteint, dis-je, d'un trouble du spectre de l'autisme et pour l'entourage également, parce qu'on le sait que ça se vit en gang, ce genre de trouble-là, comme l'Alzheimer, comme beaucoup de déficiences physiques, dont la mienne, les parents, la fratrie, les amis, l'entourage, les établissements. C'est une situation et une condition de société. Beaucoup de gens sont impliqués dans un mode de vie tel et c'est pour ça que les bonnes nouvelles touchent tout le monde. Et à commencer par le fait que les scientifiques ont réussi à diminuer les symptômes, de l'autisme chez une souris. On commence par là, à l'aide de la modification génétique, qui est une intervention qui est de plus en plus répandue actuellement dans ce genre de situation. En fait, une souris avait le syndrome du X fragile, qui est la deuxième cause de retard mental héréditaire avec la trisomie 21 et qui aura sa journée internationale demain, d'ailleurs, le 10 octobre, soit dit en passant.
Demain, c'est pas le 10 octobre.
Je suis mêlée. on est le 16. Hey, mais on se rappelle que le 2 octobre, moi, le vent de changement, c'était octobre et non pas la nouvelle élection. Fait qu'on se rappelle à quel point je suis groundée sur le plan temporel et réalistique et de la réalité. N'en demeure pas moins, si j'en reviens à cette bonne nouvelle, que le syndrome du X fragile se caractérise par des troubles du langage, des troubles de l'humeur, du comportement et une difficulté dans la gestion des émotions. C'est tout à fait différent de l'autisme, mais la symptomatologie reste similaire et les études révèlent quand même un lien entre les deux affectations et grâce à la nanotechnologie, c'est une technologie qui va à des niveaux infiniment plus petit dans l'organisme, on a pu couper une protéine qui s'appelle la CAS9. Résultat, on a annulé les comportements répétitifs de type compulsion et les tics. On sait qu'il y a un balancement du corps chez les personnes atteintes du trouble de l'autisme. Se frapper également de manière continue, c'est très caractéristique de l'autisme, et bien ça, on a pu l'annuler. On peut utiliser cette technique-là pour les formes d'autisme dont la cause génétique est connue seulement. Mais quand même, on s'entend que ce sont des comportements qui sont délétères et ce sera déjà une bonne nouvelle pour le mode de vie au quotidien de ces gens-là et de leur entourage, bien sûr. Il y a également un nouveau test sanguin qui détecte la présence d'autisme chez les enfants avec une très haute efficacité. En fait, parce que la détection permet de mieux adapter l'environnement de l'enfant pour un meilleur fonctionnement rapidement et peut par le fait même entraîner une amélioration de son développement général. Le test sanguin fonctionne à l'aide d'un algorithme qui sont à la recherche de 24 marqueurs biochimiques. Et ces marqueurs biochimiques-là, ils sont associés à deux voies principales qui mènent au développement du trouble lui-même. Initialement, le test a démontré un taux de 97,6% de précision. C'est gigantesque, c'est énorme, là. À détecter la présence de troubles, mais également 96,1% de détection de sujets sains, qu'on appelle donc ceux qui ne présentent pas de troubles. Ce qui est super important, et je vais faire un aparté ici, parce que quand on a des tests comme ça, c'est très important de ne pas faire de faux positif qu'on appelle. Un faux positif, c'est de nommer quelqu'un avec une affectation qu'il n'a pas, par erreur. Et ce test-là n'en fait pas. Donc, on est capable de détecter ceux qui ont un trouble et ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a une étude de suivi qui démontre également une efficacité de ce nouveau test à 88%. Bémol pour moi sur l'importance absolue de guérir l'autisme. Pour moi, ce n'est pas un mal, c'est une différence avec une beauté extrême qui nous amène à voir le monde différemment. Mais si ça peut aider des gens qui ont des difficultés, ce sera une bonne nouvelle. Et je veux parler de certaines compagnies, dont Toys R Us et certains zoos, qui offrent des heures de calme avant et après les ouvertures au grand public pour les gens atteints du trouble de l'autisme, pour leur permettre en fait de magasiner sans tout le bruit, les néons et l'entourage. Et vraiment, c'est super intéressant. Ça a été une initiative qui a commencé en 2015, si je ne me trompe pas, avant Noël. Et ça a super bien fonctionné, donc on espère de le voir de plus en plus. Et je vous laisse, et ce sera sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux sur le canal M Vues et Voix sur Facebook, Des vêtements qui ont été repensés pour les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est la compagnie de vêtements Independence Day Clothing, qui est une initiative, cette fois, d'une femme nommée Lauren Theory, un pilier de CNN et une réalisatrice cinématographique. C'est des vêtements qui n'ont ni fermeture éclair, ni bouton, qui n'ont ni étiquette, donc on peut les mettre dans tous les sens. On ne se questionne plus de s'habiller, il n'y a plus de difficultés sur le plan tactile non plus. Et allez visiter leur site web et également aller visiter notre page Facebook pour avoir les détails.
Garde-les pour toi, tes excuses déjà usées. Je sais mieux que toi qu'on allait quand même pas finir mariés. On savait qu'on s'aimait pas. C'était parfait pour moi, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'ai perdu Nord encore à vouloir faire des ronds carrés. J'ai dit une fois, ne sera jamais, jamais. Mais tu pourras me faire plaisir. Plus envie de boire mon café tiède. Me contenter de possible pire. Je l'ai toujours vu dans tes yeux. Que c'est moi qui t'aimais pour deux. Oh, 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 j'ai perdu Nord. Pourtant, j'ai tout essayé. Faire des ronds carrés. C'est moi, tu vois, qui aimait mieux ça compliqué. Non, ça compte pas. Tromper quand on s'est pas vraiment forcé. C'est moi qui s'y fais ramasser, chausser les mauvais souliers, ça coupe pas vite, ça marche pas drette. Bouge pas tes bottes, pour moi, j'aime mieux continuer. J'ai jamais eu envie de jouer, oh non, sur une guitare presque accordée. C'est moi qui sais faire ramasser, à chausser les mauvais souliers. Ça court pas vite, ça marche pas drette. Bouge pas tes bottes, pour moi, j'aimerais continuer une pied.
Il y en a qui rappliquent et qui rappliquent avec conviction et fermeté. C'est le cas du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, regroupement dont j'ai trop peu entendu parler et à qui on donne la parole aujourd'hui. Linda Gauthier, directrice générale du Rapplique, est là pour nous le faire connaître. Bonjour, Mme Gauthier.
Bonjour, Mme Robitaille. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Merci, oui.
Oui, donc... vous êtes conceptrice de plusieurs programmes à l'intérieur de l'organisme. Vous vous occupez également des relations publiques. La mission du Rapplique actuellement, c'est l'élimination de la discrimination qui est faite à l'égard des personnes en situation de handicap et des obstacles qui limitent présentement l'exercice de leurs droits et de leur liberté. C'est quoi la situation en 2018? C'est aberrant là, de parler de ça aujourd'hui.
C'est incroyable, mais c'est vraiment la prétention qu'on a, c'est la mission qu'on s'est donnée.
Soyez prétentieux, s'il vous plaît. Oui.
On est vraiment, on y croit. On est des dreamers un peu, au Rapplique, en fait. Et ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens que, ben, c'est, on disons qu'on confronte un petit peu, mais on pousse fort, puis on réussit. Finalement, on réussit parce que je pense que, d'or et déjà, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment. Les personnes handicapées, on dirait qu'on ont de la misère à revendiquer leurs droits. Tu sais, c'est un peu nouveau, hein? C'est un mouvement américain. Puis nous autres, on s'est un peu basé là-dessus, puis finalement, ça fonctionne. Mais c'est toujours au compte-gouttes. C'est jamais des gros dossiers. C'est toujours un par un à la fois.
Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même deux volets à rappeler. Qu'il y a le volet plus collectif, je dirais, avec des causes qui touchent vraiment les municipalités. Il y a des causes qui sont plus individuelles. Est-ce que je me trompe?
Exactement. En fait, oui, on fait de la défense collective.
Exactement.
Tous les organismes ici au Québec. Et puis, on fait beaucoup de défense individuelle. Et ça, ça prend, je dirais, beaucoup de notre temps. C'est malheureux parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des conférences, des ateliers, de la promotion, en fait, comme on voudrait, parce que l'équipe est trop petite, puis surtout, on est bénévole. Fait que c'est ça, on n'a aucune...
Vous faites votre travail bénévolement?
Oui, tout à fait. Depuis 9 ans maintenant.
Vous entendez mon silence, il parle fort.
Oui, c'est ça. Mais moi, en fait, là, c'est vraiment... Écoutez, j'ai travaillé quand même, j'ai 61 ans. J'ai travaillé pendant de nombreuses années. Je suis en invalidité, je dirais, depuis que j'ai 47 ans. Et j'ai fait un peu de tout, hein. C'est ça qui m'a... J'ai travaillé très fort. J'ai fait de la danse de compétition pendant de plusieurs années. Et puis, j'ai gagné beaucoup de sous, là. Mais c'est aujourd'hui que ma vie est la plus belle. Parce qu'elle me nourrit vraiment.
Parce que l'utilité derrière ce que vous faites?
Oui, c'est gratifiant. Mm-hmm. Le fait d'aider quelqu'un, de leur donner une voix. Puis là, je parle... VOIE, VOIX, VOIS, là, parce que nous, on y va avec pas mal toutes les en fait, toujours bien les limitations visuelles, auditives et plutôt motrices, mais quand même, tu sais. Fait qu'on aide quand même ces gens-là qui oseraient peut-être pas des fois revendiquer leurs droits eux-mêmes ou rédiger une plainte ou tu sais aller d'eux-mêmes devant la commission des droits de la personne.
Est-ce que c'est possible que vous nous donniez un exemple concret que vous avez fait?
Un exemple concret, oui. Écoutez, bon, je vous dirais justement les bureaux de la commission des droits qui n'étaient pas accessibles. C'est un immeuble dans le Vieux-Montréal. Qui est tenu par les propriétaires, c'est les gestions, Georges Coulomb, parce qu'on est un promoteur du patrimoine et tout. Et puis, les bureaux de la commission y étaient. On avait difficilement accès, parce que c'était une plateforme élévatrice. Puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut ce qu'il faut. Alors, on a poursuivi carrément. Et puis, on a gagné. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un ascenseur adéquat. Parce qu'il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui vont là. Et souvent accompagnées de chiens, guides ou chiens mira aussi. Fait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans l'ascenseur et la personne et le chien. Fait qu'il fallait toujours demander à quelqu'un de nous monter ou nous descendre le chien, là, selon où on était. Et ça a pris plusieurs années. Mais finalement, on a cette personne. En fait, les plaignants ont gagné. Là. Et ça, c'est un des nombreux exemples. On en a quand même plusieurs parce que on a 9 ans de combat, je dirais, qui ont mené à des fins heureuses pour la plupart.
Oui, mais exactement. Et vous êtes le pont pour ces fins heureuses-là. Vous travaillez, vous défendez ces gens-là devant la Commission des droits de la personne, également des droits de la jeunesse. Il nous reste trop peu de temps pour parler de votre mission. Je veux simplement nommer également qu'il y a une consultation publique actuellement pour l'accessibilité universelle qui se tient depuis hier, depuis le 15 octobre, donc du 15 octobre au 30 novembre, parce qu'actuellement, 40% des édifices sont accessibles seulement. Et il est grand temps que le gouvernement émette des lois pour obliger les commerçants à se rendre accessibles. Comment on fait, en terminant, Mme Gauthier, pour faire une demande d'aide auprès de vous, votre clientèle? Est-ce qu'on doit être membre? Est-ce qu'il y a des arrondissements?
Absolument pas. Nous, on n'est pas en québécois. Alors, on a juste à nous téléphoner au 514-656-1664. C'est tout.
Et on se rend sur le www.raplique.org, raplique, RAPLIQ.org pour aller voir vos activités et vous encourager dans votre magnifique mission. Merci beaucoup, Mme Gauthier.
Merci à vous, Mme Robitaille.
Bonne journée.
Au revoir. Words of love when I'm
did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into us.
La merveilleuse, l'original formation LSD avec la chanson Thunderclouds, une formation que j'affectionne particulièrement, qui est composée de Labyrinth, Sia et du DJ Diplo.
Affectionne, tu dis? T'adores ça!
Je capote. Je les trouve originales, je les trouve musicalement géniaux. Et bon, il y a quelques singles qui sont sortis, dont trois singles finalement. Et il y avait une sortie d'album prévue pour l'automne. Et là, j'ai la confirmation actuellement de Jean-Sébastien Laliberté qui est revenu en régie pour une sortie d'album pour le 2 novembre. Robert.
Oui. Pas mal de choses qui me réjouissent ce matin. La première, évidemment, est très, très personnelle, c'est-à-dire que il y a le lancement ce soir de mon dernier livre.
Le livre Tout écartillé.
Aux éditions Somme Toute, c'est Marcel Sabourin, Tout écartillé, c'est-à-dire que c'est la biographie de Marcel Sabourin, le célèbre mandibule de la télévision à l'époque.
Mais c'est ce soir qu'on...
C'est Marcel Sabourin, c'est le comédien qui a joué le plus de rôles dans le cinéma québécois.
C'est vrai?
On parle de près de 90 longs-métrages. C'est le comédien le plus connu. Il a également été très jeune professeur à l'École nationale de théâtre. Il y a un nombre incalculable de comédiens qui doivent non seulement leur métier à Marcel Sabourin, mais leur façon de vivre et leur philosophie de vivre aussi. C'est très important. Je dis dans le livre et dès le quatrième de couverture, ça a été un professeur de liberté. Et c'est très rare des professeurs de liberté. Et c'est un grand homme, un grand comédien.
Tu parlais de cette idée de ramener la culture québécoise à l'intérieur de l'art dans lequel on faisait, parce qu'on ramenait ça d'ailleurs. Lui, il a dit non, on a quelque chose à faire, nous, en tant que culture.
Voilà.
C'est gros, là.
Oui, c'est... Il a pavé la voie à ce qui se passe maintenant dans le monde des arts au Québec, dans la personnalité québécoise des arts de performance. L'autre sujet qui me passionne, bon, ce livre-là, donc, c'est disponible maintenant en librairie, ça s'appelle Marcel Sabourin, Tout écartillé. Hier, j'étais faire affiler mes couteaux, affûter mes couteaux de cuisine.
C'est pas
une chronique, ça. J'allais là depuis longtemps, mais ça fait 7 ou 8 ans, j'étais déménagé dans la région de Granby, l'affûteur en question. Et je l'ai retrouvé hier parce que j'avais hâte de voir ce qu'il était devenu, s'il est encore vivant, etc. Je l'ai rencontré. Alors, imaginez-vous, un gros bonhomme d'un certain âge, un âge certain, joufflu, etc., habituellement assez joyeux, qui est dans son sous-sol très organisé et qui affûte de façon absolument experte. Tout ce qui s'affûte, il l'affûte de scie à chaîne pour... Il n'y a pas une scie à chaîne, il n'y a pas un arbre dur qui va résister à une scie à chaîne affûtée par cet homme qui s'appelle Yvon Beauregard. Les couteaux de cuisine, c'est la même chose. Ça devient des scalpels quand ça passe par ses mains. D'une grande, grande dextérité. Extraordinaire. Je vais le voir hier et je vois qu'il est triste. Okay? Alors, voici l'histoire. Quand je l'ai connu, cet homme-là aiguisait ses couteaux le matin. Il se remettait d'un veuvage qui a été difficile, mais résilient. Il s'en est remis, etc. Il s'est fait des amis. Il s'est mis à faire de la moto. Il y avait deux Harley. Il faisait de la moto avec ses chums de Harley qui venaient souvent pendant qu'on faisait affûter des couteaux. Les chums venaient s'asseoir dans des berceuses dans le sous-sol, des berceuses rembourrées. se promenait là-dedans, puis bon, il visitait. Depuis, il a fait un AVC. Paralysé, main droite, jambe droite, etc. Il a réappris à aiguiser avec sa dextérité, avec la main gauche, de façon extraordinaire. Il ne peut plus faire de moto. Il ne peut plus rendre service comme il faisait à ses amis parce qu'il n'est plus capable.
Il
a vendu ses motos, il s'est acheté un quadriporteur, mais Harley, ça ne fait pas des quadriporteurs. Et il a ainsi perdu tous ses amis parce que ses chers gars d'alentour de lui l'ont tous quitté, seul avec son lapin dans son sous-sol. Alors depuis hier, j'ai mis un truc sur Internet, j'ai fait simplement sur Facebook, à mon nom, si on veut chercher, un article sur lui. Et depuis que l'article est paru, ça a fait boule de neige et le téléphone ne dérougit pas de gens qui veulent aller le rencontrer pour faire aiguiser leur couteau. Alors quand tu réussis à rendre quelqu'un heureux, t'es vraiment heureux d'être heureux. Je suis ravi. Bonne chance à Yvon Bourgard. Si vous avez des détails, si vous voulez des détails, vous allez sur Facebook, à mon nom, Robert Blondin, vous allez trouver l'article. Allez faire aiguiser vos couteaux. Vous allez aiguiser aussi votre sens de l'altruisme.
Absolument. Merci, Robert. Restez avec nous à l'émission encore de choses touchantes et de belles nouvelles. Merci Robert pour cette belle histoire humaine. On revient dans quelques instants avec François Baruel qui nous parle santé, avec Jean de la Fontaine qui nous parle de fables et également les chroniques des Journées mondiales et internationales de la semaine. À tantôt. Midi 30 déjà, et comme le dit Jean-Sébastien Laliberté, qui est de retour en régie, je pense que je vais le dire 14 fois, ça passe vite quand on s'amuse. Emmanuel Robitaille et Robert Blondin avec vous encore pour 30 minutes. 30 minutes encore qui nous restent pour aimer la vie. autour de toi. Petite laine, et je ne suis pas en train de dire qu'il y a autour de toi une petite laine, petite laine étant l'interprète de la chanson, autour de toi, interprète, mon Dieu, et on rigole aujourd'hui. Alors, interprète québécois, oui, toujours, toujours, que vous pouvez toujours découvrir, oui, sur le site palmarèsadisque.com. Et on sait, parlant d'artistes, parlant de musique, que c'est bon pour la santé, la créativité et l'art. Et François, tu as des bonnes nouvelles par rapport à ça pour nous.
Oui, il y a des...
Bienvenue en public, de... ben bienvenue oui. en studio, premièrement.
Ben, tiens, premièrement.
Oui, premièrement.
En personne. Imagine une chose, imagine-toi, Emmanuel, que tu, es, que tu vas voir ton médecin, tu dis, ah, je ne me sens pas bien, je suis un peu triste, etc. Et ton médecin te dit, bah, écoutez, je vais vous prescrire, je vous prescrire une visite au MBM, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Allez passer une après-midi, ça va vous faire du bien. Et la prescription... c'est y aller gratuitement. Donc, tu y vas gratuitement. Tu peux emmener quelqu'un et puis tu peux y passer même l'après-midi avec
c'est
deux personnes.
Inusité,
donc, c'est
assez
donc, c'est remboursable comme médicament, ça.
C'est même pas remboursable, c'est gratuit.
C'est un médicament d'exception, ça. C'est déjà complètement... penser, c'est couvert.
Ça me fait penser au frère Jacques qui faisait une chanson qui devait être remboursée par la Sécurité sociale.
C'est mais... une maudite belle idée.
Oui. C'est
de,
une
de se faire prescrire
idée.
Ça d'aller au musée
au lieu
des
pilules là oui mais ça fait du bien un petit peu
bien
oui.
sûr bah ça fait partie de l'art thérapie et ça serait conseillé aux gens qui sont tous ceux qui sont malades qui ont des diabètes, hypertension ou des
on parle même pas de sentimental hein. de santé mentale, on parle de santé physique.
Mais on peut même parler santé mentale, c'est évident. Santé mentale, il est sûr que l'art thérapie est utile.
Oui, parce que c'est mon premier réflexe.
Voilà.
Mais oui, tout à fait.
Lorsqu'il y a un problème de santé mm-hmm. mentale, mm-hmm. mais on peut parler aussi de choses parce qu'en fait, l'art thérapie ou du moins l'art, lorsqu'on apprécie quelque chose qui est beau, c'est vrai que ça sécrète, on sécrète de la sérotonine et c'est l'hormone donc de la récompense, mais en même temps, toute la tension baisse, tout se résout et on devient plus zen. Voilà. Donc ça peut être intéressant.
Est-ce qu'il y a des gens pour qui, mettons, ça serait, je dirais pas contre-indiqué, mais pour qui ça pourrait moins fonctionner?
Les gens pour qui ça pourrait moins fonctionner, ce serait peut-être des gens qui sont extrêmement nerveux et qui ne sont pas intéressés. C'est surtout...
L'agoraphobie, par exemple.
L'agoraphobie.
Ce serait peut-être pas la meilleure idée du monde d'aller se promener dans une foule un dimanche après-midi.
Non, mais oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont absolument aucun intérêt pour ce genre de choses et peut-être que ça n'a pas grande utilité.
Et actuellement, l'ouverture des médecins, pour prescrire ça, elle se situe à quel pourcentage? C'est pas d'emblée que notre médecin va accepter de nous prescrire ça, là?
Et non, ça ne va pas être parce qu'en fait, il va falloir qu'ils prennent l'habitude, parce que ça, c'est un projet qui va commencer le 1er novembre.
Ah?
Oui, le 1er novembre, et c'est pour un nombre limité, mais c'est un test. Et on va voir ce que ça va donner. Et à mon avis, je pense que ça ne peut que grandir et que persister. Ça fait partie de l'inclusion, finalement.
Ah oui, ça fait partie d'un grand changement.
Mais ça fait partie d'un changement.
De système.
Faire sortir les malades qui sont en fauteuil roulant, qui sont dépressifs, qui sont, etc. Les faire sortir, les socialiser, les sociabiliser, ça leur fait du bien. Il n'y a que ça, en fait, qu'il faut retenir. Hein. C'est finalement... Bien sûr que l'art-thérapie en soi, en plus, chez les malades d'Alzheimer, on connaît les bienfaits de l'art-thérapie lorsqu'il s'agit de même de créer quelque chose. Et l'art-thérapie, en général, est toujours utile.
Mais moi, j'aime mieux entendre que les médecins sont rapides sa gâchette sur les sorties culturelles que sur la médication.
Ben, bien sûr.
C'est une très bonne nouvelle à mon propre sens. Ben, oui. Tu m'as parlé tout à l'heure, parce que oui, nous nous parlons parfois en dehors de cette émission magnifique.
Ouais, ça arrive.
On s'adresse la parole parfois. Tu m'as dit une nouvelle qui m'a surprise concernant la fameuse lumière bleue. Je pense qu'il y a un article par semaine qui sort dans une presse écrite ou une autre là, concernant les méfaits de ça.
Tous ces articles viennent d'une étude de l'INSERM de 2017. L'INSERM, qui est un organisme de recherche français, qui a dit « Attention, la lumière bleue, ça vous attaque la rétine, ça vous opacifie le cristallin ».
Ah non, ça vous envoie en enfer.
Ça vous envoie en enfer.
Et ça vous empêche de dormir si vous regardez ça avant de vous coucher.
Voilà. Mm-hmm. Alors en fait, quand on regarde bien l'étude de l'INSERM, on s'aperçoit que ça a été fait dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire
la méthodologie est questionnable.
Voilà. Mm. Le protocole est vraiment extrême. C'est-à-dire qu'on a exposé des rats albinos ou non albinos à des températures de 6000, 7000 degrés Kelvin. C'est toujours des rats, c'est terrible. Hein. C'est
je m'excuse, mais je vais rire, je vais rire, pas pleurer. Continue.
À des températures de 6000, 7000 degrés Kelvin, c'est-à-dire extrêmement blanches, c'est-à-dire c'est pratiquement de la température de poissonnerie, poissonnerie ou grand magasin, supermarché, qui sont éblouissantes avec plus de 1500 lux. Ce qui fait que ce sont des choses qu'on n'utilise jamais, nous.
Ah non.
Et en fait, nous, nous avons besoin de 2700 degrés Kelvin. En fait, ce qu'il faut utiliser, c'est réellement ça. C'est réellement une couleur qui correspond à la lumière de l'ampoule incandescente d'autrefois. On a tendance à mettre des lumières trop bleues et trop intenses. Ça abîme les yeux. Mais si vous n'utilisez que des ampoules classiques ou des ampoules avec une lumière de 2700 Kelvin, vous n'avez aucun problème. Et quand il s'agit aussi des téléphones portables, par exemple, il faut le mettre en mode nuit, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en proportion de la lumière. Si vous êtes dans la nuit, il va s'éteindre, ou du moins il va s'estomper tout doucement. Et dans ce cas-là, vous diminuez énormément tous les rayonnements de lumière bleue et vous ne risquez pas vraiment de... Donc,
toutes les bonnes liseuses électroniques sont équipées de ça, dans cette lumière. Ça devient, on lit au lit, par exemple, il n'y a pas de bleu, c'est ocre, c'est jaune ocre.
C'est
et on peut lire pendant des heures sans que ça...
C'est exactement ça, Robert, c'est exactement ça. Il faut que la lumière soit ocre, jaune, ocre. De cette manière, ça repose les yeux, ça ne les abîme absolument pas.
Donc, bonne nouvelle, une panique de moins sur la planète.
Ah,
merci,
oui,
François.
Oui, vraiment.
Merci beaucoup.
T'en prie.
Tu vas rien trouver à part de l'amour que tu brandis. Fouille dans ma valise de l'argent et quelques cahiers pour écrire ce qui va m'arriver. J'suis pognée aux doigts. Chaussettes usées. Fouille dans ma valise, j'ai amené deux paires de souliers. D'un coup que je marche quelques années, je suis pognée aux doigts. Mon cœur est en panne.
C'était Alison Pétrin, de l'amour puis du brandy. Artiste à surveiller, je vous l'annonce. Et habituellement, je vais me le donner sans aucune humilité. Je suis assez bonne pour pointer ce qui risque de monter très, très haut. Et Alison Pétrin, pour moi, fait partie du lot. Jean est assis autour de la table. Quelle chance on a! Pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, on a Jean de La Fontaine qui fait...
Votre perruque.
Oui, c'est ça. Avec votre perruque, vous pouvez relaxer parce qu'on le sait que vous vous faites vieux. Ne vous en faites point. On sera relax. Jean de La Fontaine, oui, qui fête ses 350e anniversaire. Non pas de naissance, mais bien que ses fables, l'œuvre, tout ce qui nous a légué, fête ses 350 ans d'existence. Et pour ce faire, on se fait plaisir à aimer la vie et on réécoute ses contes qui nous rendent un peu meilleurs. Et cette semaine, on écoute la très populaire fable Le chêne et le roseau.
Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau :
Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais... Vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. Oh, la nature envers vous me semble bien injuste.
Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin.
Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
Je prône souvent le discernement, le jugement personnel individuel dans la vie. Je pense qu'on se doit, en tant qu'être humain, sur chaque chose que l'on entend, que l'on écoute, et sur nos propres pensées d'ailleurs, à poser un discernement quelconque. Et lorsque j'étudiais, bon, étude, c'est un long mot, là, quand je me suis penchée sur cette morale, dans les écrits, on parlait d'équité devant la mort, c'est-à-dire que la loi du plus fort ne fonctionne pas quand on se trouve face à l'inévitable. Donc, le chêne étant plus fort que le roseau, il vantait, il a cassé, il est mort. C'est pas parce qu'il était plus fort qu'il s'est sauvé de la mort. Mais en dedans de moi, ça disait pas ça. En dedans de moi, ça me disait non. Le chêne était beaucoup trop rigide pour faire face au vent. Le roseau, lui, a fait preuve d'adaptabilité et de souplesse devant l'adversité. Moi, ça me parle de l'idée de lâcher prise et d'accepter un peu l'idée de rester mou devant une chute. Tu sais, les chats, là, ils se cassent rien parce qu'ils restent mou. Tu sais, plus t'es en ivresse, plus tu déboules un escalier chaud, moins t'as de chance de te casser un membre.
La technique des parachutistes, quand ils atterrissent, c'est de se faire très mou, hein, pour faire le roulé-boulé, là.
Et voilà. Donc, ne résistez pas.
Il ne voit plus. Le temps est là pour se poser. Il ne voit plus. Il marche au rythme de son âge. Là où il va, l'importe peu. Il ne sait pas. Il pense haut, les regards fusent. Il ne veut pas ralentir. Il ne veut pas ralentir.
importe peu. Il ne sait pas, il pense haut, les regards fusent. Il ne veut pas ralentir. Il ne veut pas ralentir. Il ne veut pas ralentir. Il ne veut pas
Le bal, Simon Senlis de l'album Le Bouquet de Néant. Ah, ces journées mondiales et internationales de la semaine, tant de journées, tant de déchirures. Moi aussi, hey, je me sens poète. Je... Tes yeux, Robert, ils sont tout écarquillés. Écarquillés. On écarquille les jambes, on écarquille les
aujourd'hui,
yeux.
Aujourd'hui, c'est plutôt tout écartillé avec le titre de mon livre.
16 octobre, on parle de la Journée mondiale de l'alimentation, aujourd'hui qui est chapeautée par la FAO, soit l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture. Et le thème de cette journée en 2018, c'est la faim zéro, F-A-I-M, bien sûr, soit d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. On peut d'ailleurs suivre les événements pour cette journée-là avec le mot-clic WFD. 2018 pour le World Food Day ou encore Faim Zéro en français. Journée mondiale de la colonne vertébrale également aujourd'hui, qui est axée sur la santé de la colonne vertébrale et sur la sensibilisation des problèmes et des douleurs que vivent ceux qui ont des affectations de la colonne. Cette année, Love Your Spine, aime ta colonne, colonne étant la colonne vertébrale, j'aime mieux en anglais. Et le thème sous le thème sur lequel se déroulera cette journée aujourd'hui, journée où les chiropraticiens, les chiropracteurs, ça se dit, je ne savais pas. J'ai lu, mais avec mon discernement, j'ai décidé que j'allais dire chiropraticien pareil, à travers le monde, se mobilisent pour nous rappeler les notions de base qui peuvent avoir été perdues en chemin. Donc, certains vont même jusqu'à offrir des séances gratuites pour nous amener à se pencher sur ce qui nous tient debout. Positions, des bonnes positions, s'il vous plaît, prenez soin des choses que vous soulevez, entre autres, des positions que vous prenez quand on soulève des poids lourds, juste se tenir droit, ça fait du bien un petit peu, hein. Dans nos opinions aussi, également. Point personnel. 17 octobre, Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, décrétée par l'OMS en 2005 et qui s'ajoute à notre semaine nationale du don d'organes qui se tient chez nous du 22 au 28 avril. D'ailleurs, Transplant Québec nous rappelle l'importance de signer notre carte d'assurance maladie pour le don d'organes parce que trop d'hommes et de femmes meurent encore aujourd'hui, faute d'avoir accès à un organe à temps. On en profite pour souligner la grande première canadienne le 12 septembre dernier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où une équipe de chirurgiens a réussi une greffe faciale sur un homme de 64 ans, ce qui a fait de cette intervention la greffe sur le visage le plus âgé du monde. Pour rester au courant des activités de Transplant Québec et de ses activités, rendez-vous sur le www.transplantquebec.ca. Et le 20 octobre, fait cocasse, c'est la Journée internationale des cuisiniers. Et on remonte en 2004 pour revisiter la première fois où cette journée-là a été soulignée, soit au moment de la célébration inaugurale de la profession de chef à travers le monde. Hey! Ça n'existait pas comme profession avant 2004. Quelle aberration!
On peut discuter de ça.
On en discute-tu? On a 32 secondes.
Ça existait bien avant.
Mais tu sais, il a fallu comme dire, OK, on vous respecte assez pour vous donner le titre de profession. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? On mange depuis, en tout cas. Alors moi, dans mon aberration, j'ai décidé de choisir cette journée pour la nommer de manière... écoutez, c'est important. Et j'apprends ici, oui, qu'être chef, c'est reconnu mondialement seulement depuis 14 ans. Ça me jette à terre. Outre ce fait, le but à la base de cette journée était de faire reconnaître la validité de la profession de chef en impliquant ceux-ci dans des événements caritatifs, des compétitions, des démonstrations culinaires. Aujourd'hui, cette journée-là, elle est mise de l'avant par la Fédération mondiale des sociétés de cuisiniers qui se présente elle-même comme l'autorité mondiale en cuisine. Et c'était les Journées mondiales et internationales de la semaine. Ah!
Il est frêle, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, droit debout, semblait trop au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours retomber. Tomber pour se relever, retomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fendra dans l'ouragan. Moi, roseau, par mauvais temps, je danse avec le vent. Le chêne est un grand sage qui ne craint pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un plan. Cette histoire banale que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. Retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie confortent nos vies.
C'était La chaîne et le roseau des cow-boys fringants. Encore un petit clin d'œil à Jean de La Fontaine. On est dans le thème aujourd'hui. Ne résistons pas devant l'adversité, résilience et de mise. C'est tout pour aujourd'hui pour nous. Merci à Catherine Bourderon à la recherche. Merci également à Clotilde Seille à la réalisation. Jean-Sébastien Laliberté de retour en régie. Merci Robert et je te souhaite un excellent, excellent...
lancement.
Accouchement officiel de ton livre ce soir.
Marcel Sabourin, Tout écartillé, c'est dans les librairies.
Bonne semaine.